Bien, allez, on attaque donc cette table ronde numéro 5 sur le thème donc de l'islam à l'université. Peut-on en parler? Alors, bon, j'ai été désigné pour animer cette table ronde et je vais devoir commencer par un témoignage personnel, ce que je ne fais jamais et rarement, mais bon, alors, en l'occurrence, j'interviens aussi en tant que témoin. Donc, puisque on ne le voit pas très bien ici, mais c'est mon nom qui apparaît sur le mur de l'IEP de Grenoble, de Sciences Po Grenoble, avec mon collègue Klaus Kinsler, professeur d'allemand, et nous avons donc été associés au terme donc islamophobie et fascisme. Alors, donc cette affaire qui a éclaté au printemps dernier, qui attaque actuellement sa deuxième saison, hein, pour ceux qui ont suivi la série, hein, donc c'est une série un peu compliquée, donc il y a des rebondissements quasiment presque chaque semaine, en tout cas actuellement. Donc évidemment, donc ça m'a conduit à m'interroger, en tout cas sur ce qui se passe, puisque donc si je me suis retrouvé dans cette histoire, c'est parce que j'assure un cours à option à l'Institut d'études politiques de Grenoble depuis 2014, un cours que j'avais proposé à ce moment-là parce que je voyais bien qu'il y avait des choses qui se passaient, qui méritaient quand même qu'on s'y intéresse, et j'étais un petit peu désolé de penser que des étudiants de sciences politiques, au fond, puissent passer leur cursus sans être jamais confrontés à un moment d'échange, de dialogue sur les questions liées à l'islam et aux musulmans en France. Et à l'époque, je pensais effectivement qu'on était après les attentats de Mohamed Merah, quelques années après, et on voyait bien qu'il y avait des tensions et que de nouveaux attentats risquaient de se produire. Je l'ai annoncé aux étudiants régulièrement, et par certains côtés, je remercie les frères Kouachi d'avoir contribué à valider mon cours auprès de l'administration de l'IEP. Bref, et donc, voilà, j'ai appris donc, à l'automne 2020 que des étudiants, un syndicat étudiant, voulait faire interdire mon cours. C'est une demande qui me fait réfléchir. J'essaie de me projeter dans une expérience de pensée. Si j'assurais un cours, je ne sais pas, intitulé « Sociologie politique des catholiques en France » et que des étudiants s'insurgent, et que, évidemment, dans ce cours, je parlerai de choses qui peuvent éventuellement déplaire, hein, sur les valeurs des catholiques, peut-être le traditionalisme, etc. Enfin, bon, on peut trouver beaucoup de choses. Si des étudiants manifester pour demander l'interdiction de ce cours, comment est-ce qu'on l'interpréterait? Quelle serait la signification que l'on attribuerait à une telle demande, à une telle revendication, avec l'accusation éventuellement de christianophobie, je ne sais pas. Donc, voilà, je m'interroge sur du coup la démarche de ces étudiants qui, par certains côtés, se sentent obligés de devenir les gardiens d'une religion. Et il y a là quelque chose de très troublant dans ce qui me semble être une nouvelle alliance théologico-politique. Les étudiants qui ne sont pas eux-mêmes musulmans, hein, qui n'ont rien à voir avec l'islam, hein, je peux vous rassurer tout de suite, hein, les étudiants en question étaient tout ce qu'il y a de plus classique, traditionnel, des petits bobos, je dirais, grenoblois, peut-être, enfin, pas seulement grenoblois, parce qu'on a des étudiants qui viennent de partout. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'étudiants mobilisés, militants, qui se donnent pour mission, en quelque sorte, de protéger une religion qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs beaucoup. Donc, voilà, donc ça c'est un petit peu le point de départ. Alors, je vais bien sûr quitter du coup le témoignage personnel pour lancer une réflexion peut-être plus générale sur l'enseignement de l'islam, et je vous propose peut-être quelques questions qui pourront éventuellement servir de base ou pas, de réflexion aux intervenants. Alors, quelle est la place de l'islam dans l'enseignement supérieur? Est-ce que cette place est suffisante ou pas? Est-ce qu'il faut renforcer l'islam dans les enseignements? Peut-on dire qu'il s'agit d'un sujet tabou? Un peu comme l'était autrefois le communisme? Quel est ou quel serait l'intérêt d'un enseignement sur l'islam? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter aux étudiants? Est-ce qu'il doit s'adresser à tous les étudiants ou à certains étudiants, certains cursus par exemple, plus spécifique? Est-il possible d'assurer un enseignement neutre sur un sujet aussi brûlant? Et est-ce même souhaitable? Est-ce qu'on peut effectivement peut-être ne pas prendre position parfois sur certains sujets? Et que signifie donc la neutralité pour un tel sujet? Et puis une question peut-être un peu subsidiaire, au fond, qu'est-ce qui nous manque le plus aujourd'hui à l'université? Est-ce que c'est l'enseignement de l'islam ou est-ce que c'est la recherche sur l'enseignement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, bien sûr. Alors, réfléchir sur ces différents sujets. Donc, il y a quatre intervenants prestigieux, donc trois qui sont présents ici, puis un quatrième qui interviendra par Zoom. Alors, je les présente rapidement. Donc, nous avons d'abord Florence Bergeau-Blaclair, donc, qui est anthropologue et directrice de recherche au CNRS, qui travaille sur la question de l'islam depuis déjà assez longtemps, qui a publié un livre que j'avais trouvé passionnant en 2017 sur le marché halal, qui était un ouvrage extrêmement intéressant, donc, où l'auteur interroge la question de la normativité et les connexions qui s'établissent entre les militants religieux, si je puis dire, et les institutions publiques. Et elle a publié également, elle a co-dirigé en tout cas récemment, un ouvrage collectif qui s'appelle « Cacher cet islamisme », pardon, dans lequel elle relate une expérience particulièrement douloureuse de cancel culture. Donc on, voilà. Et puis par ailleurs, donc Florence Bergeau-Blaclair anime ou préside ou co-préside, je ne sais plus, l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, qui est un lieu de résistance, si je puis dire, pour l'instant, bon, à la cancel culture. Donc, je vais présenter les quatre intervenants tout de suite, et puis on les écoutera ensuite. Nous aurons ensuite, donc, en second lieu, donc, Arnaud Lacheret, qui est un politologue formé à l'IEP de Grenoble, que j'ai eu la chance d'avoir comme étudiant, que je n'ai pas totalement déformé, donc, du coup, qui vit et travaille désormais dans le Golfe Persique, puisqu'il est professeur associé à l'Université du Golfe Arabique au Bahreïn, et qu'il est également directeur de la French Arabian Business School. Donc, c'est quelqu'un qui a publié beaucoup d'ouvrages et d'articles sur cette question de l'islam, et pas seulement d'ailleurs, avec des ouvrages au titre provocateur, en particulier le livre qui s'appelle « La femme et l'avenir du Golfe » en 2020, et son dernier ouvrage qui s'appelle « Femme, manager, musulmane, une intégration à la française ». Je pense que de ce point de vue-là, il aura des choses intéressantes à dire sur la manière dont il prend en charge justement l'enseignement et la liberté éventuellement qu'il a ou pas dans ce cadre un peu particulier. Nous aurons ensuite Bernard Rougier, Bernard Rougier, qui est donc docteur en sciences politiques, qui a vécu et travaillé de nombreuses années au Caire et à Beyrouth. Je ne sais pas si j'oublie des choses dans votre parcours géographique. Et il enseigne aujourd'hui à l'Université Sorbonne Nouvelle. Il a publié de nombreux ouvrages sur l'islamisme, notamment deux qui sont particulièrement intéressants. Donc, Qu'est-ce que le salafisme, qui est un ouvrage un peu précurseur par certains côtés, puisqu'il a été publié en 2008 au PUF. Et puis un ouvrage plus récent, au titre choc, qui s'appelle Les territoires conquis de l'islamisme, qui faisait pendant à l'ouvrage bien connu Les territoires perdus de la République, bon, qui est un ouvrage effectivement qui a été que j'ai personnellement trouvé presque salvateur, parce qu'enfin on avait quelqu'un qui engageait des travaux de terrain sur la réalité concrète au fond de l'islam et de l'islamisme. Bon. Et donc il a travaillé en particulier sur les stratégies d'entrisme des islamistes au niveau local. Enfin, nous aurons donc Thibaut Tellier, qui est notre historien de service, qui est maître de conférence donc en histoire à Sciences Po Rennes, si j'ai bien compris. Je m'espère que je ne trouve pas sur le lieu, parce que vous êtes passé par Lille également, et donc vous êtes actuellement à Rennes, voilà, c'est bien ça. Donc, qui est un spécialiste de l'histoire des politiques de la ville et du logement social. Et alors, c'est un sujet qui est un thème qui est un petit peu décalé, bien sûr, mais il a été amené à rencontrer, si je puis dire, la question de l'islam, en particulier dans un article que j'ai trouvé extrêmement intéressant, que j'ai découvert à l'occasion, qui s'appelle « De l'invisible au visible, la prise en compte de la dimension religieuse dans les politiques de la ville au cours des années 1975-1995 ». Et puis, un article d'opinion, enfin, plus engagé, disons, un article de presse, publié dans Marianne en 2020, dans lequel vous êtes très sévère, justement, sur les élus locaux, dans leur relation avec l'islam, ou l'islamisme, et également sur les experts universitaires. Donc, peut-être que ce sont des éléments que vous allez nous présenter ici. Voilà, donc on va suivre donc cet ordre de présentation, si vous voulez bien. Donc Florence, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup de cette présentation. Merci bien sûr pour l'organisation de ce colloque et des interventions brillantes qui ont eu lieu déjà ce matin et en début d'après-midi. Et je, voilà, j'étais dans les remerciements, je vous remercie spécialement pour ce colloque qui, en effet, s'avère à la fois d'un grand soulagement pour des praticiens de la recherche comme moi, mais aussi très inquiétant, puisque ce qu'on a entendu, effectivement, ne présage pas un avenir très radieux pour nous, les enseignants, pour les chercheurs aussi. Ce matin, quand je suis rentrée donc dans cette enceinte de la Sorbonne, des manifestations, un espèce de climat d'insécurité qui est diffusé quelques jours avant le colloque, etc. Tout cela n'est pas favorable à la recherche. Le dernier colloque que j'avais organisé à Paris, au Collège de France, c'était en 2013, un colloque international sur la norme et le marché halal, avait dû se faire sans aucune publicité, en passant par la petite porte, voilà, de façon à ce qu'on n'ait pas d'ennui. C'était une initiative d'ailleurs de la direction du Collège de France qui avait estimé que le thème du halal était problématique. Un autre colloque scientifique que j'ai organisé cette fois-ci à Aix-Marseille Université, à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, sur les fondamentalismes religieux, donc quelque chose de relativement neutre en termes de présentation. Et nous avons donc aussi dû renoncer à la publicité et payer une société privée de sécurité pour, sur les conseils même de la direction, qui nous avait mis en garde et en même temps donc avait renoncé à assurer notre protection. Voilà, donc quand j'ai commencé mes recherches, donc là je vais vous livrer simplement un témoignage, puisque je ne suis pas une spécialiste des problèmes de la recherche sur l'islam en général, mais simplement un témoignage de la façon dont je peux résumer un peu le développement des études sur l'islam en France en particulier. Donc, quand j'ai commencé mes recherches donc en tant qu'étudiante il y a près de 30 ans, j'avais donc quitté un emploi d'ingénieur en informatique dans l'aéronautique pour suivre des études d'anthropologie et je me suis intéressée à l'islam en France et j'avais adopté une perspective locale qui à l'époque était assez rare puisqu'on parlait surtout de l'islam des mosquées, des grandes mosquées de Paris, en tout cas vue de Paris. Et donc je m'étais intéressée à l'institutionnalisation de l'islam à Bordeaux et très vite mes encadrants à l'université me firent comprendre que je ne devais pas passer, en tout cas que je ne devais pas passer certaines limites et faire en sorte que je ne sois pas l'instrument de l'extrême droite et pour cela j'étais invitée à dissimuler quelques aspérités négatives de mes résultats d'enquête. Alors, il ne fallait pas, en particulier à l'époque, s'inspirer et encore moins marcher dans les pas de Gilles Kepel, qui venait pourtant de sortir un ouvrage majeur, « Les banlieues de l'islam », une petite révolution qui mettait en évidence la face cachée de l'islam, c'est-à-dire l'islamisme, et ses réseaux profonds qui étaient en train de se tisser à l'époque, donc dans les années 80, pour noyauter les syndicats de travailleurs, notamment, qui employaient une forte main-d'œuvre immigrée. Donc ça, c'était il y a 30 ans. Depuis, bien sûr, de l'eau a coulé sous les ponts. La mise en garde, par contre, n'a pas changé. Les accusations d'extrême droite et autres noms d'oiseaux pleuvent de n'importe qui, n'importe quand, tel un réflexe. Et de ce point de vue-là, le wokisme ou le déconstructionnisme n'a rien inventé, même s'il est aujourd'hui quand même assez bruyant. Le résultat, c'est que quand on fait le bilan des études sur l'islam en France, eh bien, en tout cas pour celles qui ont été mises en œuvre à l'université, peut-être pas dans les instituts privés qui sont plus prolixes, le bilan donc universitaire est assez maigre. Par contre, il y a pléthore d'études orientées vers la lutte contre l'islamophobie et les discriminations, même si d'ailleurs il n'a jamais été démontré que les musulmans, ou ceux qui sont identifiés comme tels, comme ils disent, et on se demande d'ailleurs comment, seraient victimes de discriminations et de rejets spécifiques, et même si d'ailleurs les inventeurs britanniques de ce concept ont mis en garde contre sa fragilité et les abus d'usage du terme. Donc la différence avec il y a 30 ans est que le frérisme que l'on peut définir ou que je définis comme un islamisme transnational actif, en particulier en Europe et aux États-Unis, où il bénéficie d'excellentes conditions d'existence, donc c'est allié d'une certaine manière ou fait l'objet de complaisances particulières de nombreux partis politiques à droite comme à gauche, et des médias. La différence, donc, disais-je, avec il y a 30 ans, est la profondeur de l'ancrage de ces groupes, de ces alliances maintenant anciennes, entre une certaine gauche et aussi une certaine droite, avec ces islamistes en costume. Donc, barbe rasée, voile coloré, bandana, etc. 30 ans d'entrisme a produit un noyautage assez profond du tissu associatif local, national et européen, qui se présente sous les atours d'associations, de fédérations antiracistes et féministes, ce qu'on appelle le néo-féminisme. Le frérisme s'est donc transmis à la jeunesse. Les jeunes frères et sœurs qui étaient à peine nés lors de la sortie des banlieues de l'islam ne sont pas tous membres de la confrérie, et même en réalité très peu le sont, mais ils s'en sont les produits nourris aux petits pots de bébés halal. Ils appartiennent à la génération des jeunes woke et partagent avec eux une scolarisation à la dite école de la République et une propension au victimisme, mais avec un bagage idéologique très solide, utilisant une pratique religieuse millénaire. Il faut rappeler que la très grande majorité des écoles coraniques, des centres de formation islamique en France, sont tenues depuis donc une trentaine d'années par les frères musulmans. Cette génération a perdu le sens de la laïcité, c'est pourquoi les jeunes musulmans sont majoritaires à affirmer aujourd'hui que la loi de l'islam, qui est pour eux en fait une morale et un code de conduite quotidien, en plus d'une pratique rituelle, il y aurait d'ailleurs tout un travail à faire sur la définition de la pratique religieuse en islam aujourd'hui, eh bien, pour eux, la loi de l'islam est plus importante que celle au pluriel de la République. Le déconstructionnisme woke, issu de la French Theory, on en a parlé abondamment ce matin, convient très bien au projet hégémonique et suprémaciste de société islamique du frérisme. C'est la raison islamique de l'alliance islamo-gauchiste. Le frérisme international, fortement influencé par l'islamisme asiatique, notamment pakistanais de la Jamaat islamique de Maududi, a développé une nouvelle épistémologie sous le nom d'islamisation de la connaissance, Islamization of Knowledge. Ce projet donc, d'Islamization of Knowledge a, dès les années 1980, lors de sa naissance, visait les sciences sociales occidentales, accusées d'être les propagateurs de l'athéisme et de la décadence. Noyauter les départements de sciences sociales fait partie du projet frériste, qui le dit et le répète, si on veut bien le lire, et cela a commencé, comme je l'ai dit, dès les années 80, en particulier dans les départements d'études arabes et islamiques. La première offensive a suivi la sortie des travaux du livre d'Edouard Saïd sur l'orientalisme, le jeu étant ensuite d'accuser d'orientalistes, un gros mot donc, tous ceux qui osaient parler de fondamentalisme musulman. La suite, je vais évidemment très très vite, a été écrite par des gens comme Talal Assad et son élève Sabah Mahmoud, des auteurs vénérés par l'anthropologie relativiste qui nourrit le wokisme d'exemples indigènes, et dont l'influence en France est devenue, hélas, considérable. Aujourd'hui, dans de nombreuses universités européennes, américaines et ailleurs, et en particulier dans l'ex-empire britannique, dans les pays du Golfe ou en Malaisie, des fortunes sont dépensées pour décoloniser et islamiser le savoir occidental. Alors, en France, on n'en est pas encore là, et même si, le salafisme, par exemple, a été un peu étudié, notamment avec les travaux de Bernard Rougier, l'islamisme made in Europe, son influence normative et intellectuelle, ses méthodes demeurent sous-étudiées. Et ceux qui s'y risquent, bien sûr, sont souvent accusés de complotisme et de tout autre nom que vous connaissez bien. Mais disons que la dimension planificatrice de l'avancée vers la société islamique du mouvement frériste est systématiquement donc minorée et ceux qui la soulèvent sont accusés de complotistes.
Je vais devoir intervenir pour aller à la conclusion parce que
voilà,
le temps va
finir. La recherche est donc particulièrement visée pour des raisons de. En réalité, beaucoup de décisions politiques s'appuient sur des conseils scientifiques, on l'a vu abondamment avec le Covid. Et donc la recherche est particulièrement visée par les influenceurs, les groupes qui veulent peser sur les décisions politiques. Et ces influenceurs exercent au cœur des universités, au niveau des recrutements aujourd'hui, ils manifestent contre les enseignants qualifiés d'islamophobes, c'est votre cas, et font pression sur les enseignants pendant ou après les cours. Vous avez toujours, moi maintenant, quand je fais une conférence, j'ai toujours quelqu'un que je peux identifier qui est venu surveiller ce que je vais raconter. La recherche de terrain est rendue très difficile par les gatekeepers de la communauté. Les étudiants musulmans qui sont recrutés pour faire de la recherche sont menacés, eux ou leurs familles. Les influenceurs agissent également au niveau des financements de recherche et en particulier au niveau de l'Europe de la recherche. Et ça, c'est très important parce que l'essentiel des financements des sciences sociales viennent de Bruxelles. Et ils bénéficient, ces influenceurs, d'une couverture politique et de presse très favorable, comme je l'ai montré dans un livre consacré donc au cas bruxellois, extrêmement préoccupant, dans un livre donc soutenu par l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles qui s'appelle « Cacher cet islamisme » et qui est paru donc en 2021. Alors, je finis. Pour obtenir des financements de recherche, il faut monter des consortiums de recherche, s'allier avec des équipes nationales et internationales, répondre à des fléchages et des instructions politiques, intégrer surtout des stakeholders, c'est-à-dire des représentants de la société civile, des ONG par exemple. Or, ces ONG se sont créées pour fournir justement ces parties prenantes et elles apparaissent sous l'intitulé antiraciste ou féministe et informent les chercheurs et ensuite orientent la dissémination des résultats. Donc c'est vraiment une vraie machine à orienter la recherche. Il y a là dans ces projets européens, une faille considérable d'entrisme du frérisme, comme l'a montré d'ailleurs la campagne du Conseil de l'Europe financée par l'UE, vous vous souvenez de cette campagne pro-hijab, et des centaines de millions d'euros sont dépensés chaque année par les institutions européennes pour nourrir ces idéologies antidémocratiques. Et donc il y a un besoin urgent d'empêcher l'agression et l'usure faite à notre précieuse laïcité, notamment par l'Europe de la recherche. La France, qui préside cette année l'Union européenne, devrait impérativement poser ce dossier sur la table à Bruxelles.
Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, ce premier exposé. On va passer la parole donc à Arnaud Lacheret. J'espère qu'il est là, qu'il nous entend. Arnaud ?
Évidemment, je vous entends.
Bon,
évidemment, je vous entends et je vous écoute avec beaucoup d'attention. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Merci et je vous salue bien bas en direct du royaume de Bahreïn. Le royaume de Bahreïn, c'est une île en plein milieu du Golfe qui est située entre l'Arabie Saoudite, l'Iran et le Qatar, pour bien situer. Donc, je suis associate professor, c'est un grade qui est à peu près équivalent à maître de conférence. À l'Arabian Gulf University, qui est une université publique qui appartient conjointement aux 6 monarchies du Golfe, qui est située au royaume du Bahreïn depuis, et ça fait depuis 2017 que je suis là-bas. Techniquement, je suis le seul professeur de sciences politiques, au sens occidental du terme, dans le pays où je vis. C'est un petit pays, ça fait 1 700 000 habitants à peu près, et je dirige la French Arabian Business School, qui est un département qui est opéré en collaboration avec l'ESSEC. L'ESSEC, c'est une école de commerce qui est bien connue en France. En fait, cette université, elle ne ressemble pas à la plupart des établissements du Golfe qui ont beaucoup d'occidentaux en leur sein, puisque je suis le seul, je crois qu'on est deux à ne pas être arabe au sein du corps professoral, et je pense être le seul non-musulman. Donc voilà, pour être très clair sur le sujet, donc j'ai profité de cette expatriation depuis maintenant 5 ans pour orienter mes recherches sur le dialogue entre islam et culture arabe, notamment à travers l'émancipation des femmes, et notamment des femmes de la classe moyenne, parce qu'il existe une classe moyenne locale, notamment en Arabie Saoudite, qui a profité des réformes pour intégrer un marché du travail qui leur a été jusqu'à présent fermé, où c'était beaucoup plus compliqué, etc., et où elles ont dû justement lutter contre à la fois les normes traditionnelles et les normes islamiques pour obtenir le droit de travailler, le droit d'encadrer, parfois même des hommes, et souvent même des hommes, pour avoir le droit d'étudier dans le choix de faire les choix qu'elles voulaient, etc. Donc ces femmes, j'ai pu les interroger, j'en ai interrogé une vingtaine, et j'en ai sorti un livre qui est juste derrière moi, qui s'appelle « La femme et l'avenir du Golfe », ainsi que plusieurs papiers scientifiques. Ça date de l'an dernier, qui pointait bien entendu le facteur islamique et le rôle de la femme dans ces sociétés telles qu'elles le décrivaient. Alors dans ce livre, notamment, je remets en cause de façon assez claire la notion de féminisme islamique. Le féminisme islamique, c'est la façon de trouver une émancipation féminine dans un cadre religieux musulman. Donc je leur ai juste posé la question à ces femmes qui m'ont dit mais c'est n'importe quoi cette histoire, l'homme et la femme sont égaux, on va mettre l'islam de côté. Et donc à force de m'entendre répéter ça au fur et à mesure des entretiens, ils sont tous enregistrés, hein, j'ai vraiment voulu être très sérieux avec ça, je le critique de manière assez frontale dans mes ouvrages. Donc ce féminisme islamique s'oppose au féminisme universaliste ou féminisme libéral, pour reprendre la classification d'une autre chercheuse saoudienne, Madawi Al-Rachid. Avec un collègue de l'université du Bahreïn, Mohamed Omar Farouk, on a également interrogé les représentations du voile islamique par les femmes arabes du Golfe. Ça a donné à qui sont la plupart du temps voilées, c'est-à-dire que ce sont des femmes voilées à qui on a posé la question de la signification du voile, de pourquoi elles le mettaient, pourquoi elles ne le mettaient plus pour certaines, parce que ça arrive aussi. Ça a donné un papier publié dans Arabian Humanities, qui est une revue de référence sur le sujet, qui s'appelle « Islamic Veil in the Gulf and Arabian Modernity, a Qualitative Study on Female Managers », le voile islamique dans le Golfe et la modernité arabe, une étude qualitative sur les femmes de la classe moyenne, sur les femmes managers. Cette activité de recherche, elle se traduite par une dizaine de papiers, de livres, de chapitres d'ouvrages publiés sur la question musulmane dans le Golfe. J'ai adapté ce questionnaire en France, où j'ai pu interroger 23 femmes cadres de la deuxième génération de l'immigration nord-africaine. Cette recherche a été publiée dans mon dernier livre, qui est de l'autre côté, qui s'appelle « Femmes, musulmanes, cadres, une intégration à la française ». Donc dans toutes les études et collectes de données que je lance, puisque j'ai accès à ce terrain, je suis un des rares occidentaux à avoir accès à ce terrain en direct, c'est-à-dire que ce sont des entretiens en face-à-face que je fais, je veille à respecter un protocole le plus précis possible, notamment en termes d'enregistrement, de sélection de l'échantillon, de respect du questionnaire, d'anonymisation, de traitement de données. Ça me permet de me situer au maximum dans une certaine neutralité axiologique. C'est là-dessus que je vais baser mon intervention. Par rapport à mon objet de recherche, je suppose aussi, pour reprendre un peu Bourdieu, hein, que ma position d'occidental devant faire l'effort d'interroger des musulmanes dans leur pays me fait inconsciemment être moins actif et plus à l'écoute, dans une posture sans doute plus modeste, et donc suscitant moins d'animosité en dépit de questions très intrusives que je pose. Le questionnaire compte en effet plusieurs aspects sensibles, comme sur la polygamie. Je leur demande leur avis sur la polygamie dans un pays où elle est légale. Attention, on parle de l'Arabie Saoudite. Elle n'est pas si pratiquée que ça, mais elle est parfaitement légale. Sur le voile islamique, sur le statut de la femme en islam et bien entendu sur le féminisme islamique. Mon ouvrage et les articles qui en ont paru m'ont valu des invitations dans des conférences dans le Golfe. Parmi les plus marquantes, on notera la Sorbonne à Abu Dhabi devant un parterre d'étudiantes émiriennes. Ensuite, à la Gulf University for Science and Technology au Koweït, la plus grande université privée du Koweït. Mon livre a été discuté en direct avec une universitaire koweïtienne, une sociologue koweïtienne. Puis à la Royal University for Women de Bahreïn. Et bien entendu à l'ambassade de France au Bahreïn, où mes propos ont été discutés, j'étais en présence, c'était un petit peu tendu d'ailleurs, de deux membres féminins du gouvernement bahreïnien, la ministre du droit des femmes et la secrétaire d'État aux affaires étrangères. À chaque fois, les discussions ont été, comme on dit, viriles mais correctes, et la plupart des points qui m'ont été opposés ne portaient non pas sur l'aspect islamique, mais sur la façon dont je traitais la culture arabe, et notamment la façon dont je traitais le rôle du père, de la famille, etc. etc. À aucun moment, réellement, et j'en suis très conscient, mes propos sur l'islam n'ont pu être critiqués. C'est très étonnant. Comment on peut expliquer ça alors que je suis dans un environnement qui est 100% musulman ? Côté saoudien, l'accueil du livre fut tel que le journal Arab News, qui est un journal en langue française, en langue anglaise, en langue étrangère, en langue non-arabe, qui appartient à la famille saoudienne, à la famille royale saoudienne, c'est loin d'être complètement indépendant, hein. Me fait intervenir désormais toutes les semaines dans ses colonnes après avoir lu ce livre. Donc mon dernier article, paru le 30 décembre 2021, vous pouvez le lire en ligne, il critique assez frontalement la notion d'islamophobie et sa récupération par les islamistes. Alors que conclure de cet accueil chaleureux, malgré des propos qui, il suffit de lire mes livres et les commentaires que la presse a pu en faire, sont loin de sombrer dans la complaisance, mais sont attachés à une vraie rigueur analytique. Tout d'abord, on peut se dire que ces monarchies du Golfe, qui sont loin, très loin d'être des démocraties libérales, tenons-nous bien à ça, parviennent à prendre une distance avec l'islam politique et acceptent de débattre de son influence et d'en faire un objet d'étude, ce qui est mon cas. Les frères musulmans sont d'ailleurs interdits dans la plupart des pays du Golfe. Non seulement ils sont interdits, mais ils sont pourchassés et enfermés de manière pas spécialement que nous aurions sans doute du mal à accepter dans nos pays. Au Bahreïn, à dire qu'on est frère musulman ou se faire soupçonner d'être frère musulman vous vaut un séjour en prison. En Arabie Saoudite, c'est parfois bien pire. On connaît tous certaines histoires telles qu'elles nous sont relatées dans la presse. Donc, comment tout cela se fait ? Donc, la plupart du temps, ils sont interdits, ce qui justement permet à un occidental comme moi de parler sans trop de retenue, à la condition que je me colle à un protocole garantissant une certaine neutralité axiologique ou weberienne. Si la discussion critique sur l'islam est possible dans le Golfe, ainsi qu'une femme comme Amélie Le Renard, qui n'a pas du tout les mêmes approches que moi, hein, a également pu en faire l'expérience avant moi en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis, ce sont les réactions en Occident suite à mes ouvrages qui m'ont montré à quel point le sujet était délicat, pour ne pas dire tabou. Ça a commencé en 2019, alors que le président saoudien de mon université réfléchissait à ma titularisation en tant qu'assistant professeur, donc un grade en dessous de celui qui est le mien. Un Français dont je ne connaîtrai hélas jamais l'identité a envoyé à l'université une sélection de mes interviews dans la presse suite à plusieurs de mes publications, sélectionnant systématiquement les phrases où je prenais position en faveur de la laïcité et illustrais certains abus des islamistes en France, évidemment. Son email était accompagné d'un message signifiant très clairement au président de mon université qu'il s'apprêtait à recruter un islamophobe. Autant dire que la personne qui écrivait ne me voulait pas que du bien. J'eus donc droit à une convocation la veille de ma titularisation où mon président m'a sorti un à un les nombreux articles et leurs traductions et m'a demandé de m'expliquer. Ça a duré 3 heures, au cours desquelles je n'étais pas exactement à l'aise. Le lendemain, j'apprenais par la directrice des ressources humaines que le président avait décidé de me titulariser au poste d'associate professor, autrement dit un échelon au-dessus de celui auquel il me destinait, de celui qui m'avait proposé initialement. Ce signe montre clairement que si l'on se place dans une posture de chercheur, en acceptant la controverse sur un plan scientifique et en dépassionnant le débat, il est tout à fait possible de parler de l'islam à l'université, dans la région où je vis. Il montre aussi qu'en France, certains pensaient me mettre en difficulté en dénonçant mes propos au plus haut niveau de mon université. Force est de constater qu'ils en étaient pour leurs frais. Force est de constater également que ces gens ont fait preuve de ce dont je parle dans l'introduction de La femme et l'avenir du Golfe. Ils ont appliqué un filtre néo-orientaliste, c'est-à-dire que je retourne l'hypothèse de la théorie d'Edouard Saïd. Ils ont fantasmé complètement la façon dont les musulmans allaient imaginer, dont les arabes allaient interpréter mes propos et mes recherches. Ils ont adopté une attitude complètement paternaliste en imaginant qu'il fallait défendre les musulmans qui se sentiraient offensés par ce que j'écrivais. Il n'en fut strictement rien, heureusement pour moi. L'autre choc pour moi se produisit lors de la sortie de mon papier sur le voile islamique. Voulant avoir l'opinion de pairs suite à sa publication dans Arabian Humanities, j'eus le malheur de le poster en ligne sur la plateforme Academia, qui est bien connue des enseignants-chercheurs. En quelques minutes, des universitaires britanniques et américaines, souvent des femmes, c'est pour ça que je mets ça au féminin, ont déferlé en postant des commentaires extrêmement négatifs sans avoir lu le papier, bien entendu. J'ai tenté quelques réponses d'ordre scientifique, mais systématiquement, ce qui était mis en cause était non pas le contenu, mais ma condition d'homme blanc occidental. Le fait que mon co-auteur soit bengalais, donc pas vraiment blanc, musulman, et accessoirement spécialisé en droit et finances islamiques, n'était visiblement pas grand-chose à leurs yeux. J'ai donc retiré le papier de cette plateforme afin de ne pas attirer le problème à mon institution, mais je me suis permis de contacter l'une des contemptrices les plus virulentes. Tout est relatif, parce que bon, elle était quand même assez virulente aussi, afin de creuser un petit peu le sujet. Peut-être après tout avais-je été maladroit dans ma formulation, peut-être qu'un mot utilisé en anglais, c'est pas ma langue maternelle, avait un double sens que j'aurais pu ignorer. C'est ainsi qu'avec Asna Mokhtar, qui est, attention, postdoctoral fellow à l'université Rutgers dans le New Jersey, une des meilleures universités publiques américaines. Elle est titulaire d'une bourse Fulbright, autrement dit, c'est quelqu'un qui est mis en avant, avec qui j'allais échanger. Je vous fais la traduction d'un de ces messages, je les ai retrouvés. Alors, je les traduis. Hein. Je pense que vous devez vous demander pourquoi un chercheur homme blanc s'associe avec un autre chercheur pour écrire à propos des femmes. En quoi cela aide-t-il les femmes du Golfe ? Comment cela construit un narratif biaisé à propos des femmes du Golfe en effaçant leur complexité? Ces questions doivent vous faire réfléchir, soyez honnête avec vous-même. Alors, son message était beaucoup plus long, évidemment. Je vous fais grâce des références coloniales et à mon statut d'occidental constamment mobilisé au cours de son long message. Ce qui est intéressant ici, c'est ce que nous avons à condenser de ce qui m'a été reproché par des dizaines d'universitaires occidentaux et qui m'est aussi reproché en France. Outre le fait que je ne serais pas en soi légitime pour les mener de par mon genre, ma couleur de peau et ma religion, mes travaux ne serviraient pas la cause. Mais quelle cause? Car pour ces gens, il faut que les travaux parlant de l'islam servent une cause, un but autre que celui de la recherche. Ils ne peuvent pas prétendre être simplement neutres et appliquer un protocole de recherche, puis en exposer les résultats. C'est au passage ce que nous reprochent ceux qui critiquent ce colloque. Nous rejetons la recherche militante, quel que soit le militantisme, même si ce militantisme est noble aux yeux de certains. Mon combat en tant que chercheur n'est pas celui de l'égalité homme-femme, de la lutte contre l'islamophobie ou le racisme, il est l'étude d'un objet social qui est l'islam et ses liens avec la culture arabe. Si ensuite le monde politique ou militant veut utiliser mes travaux pour enrichir sa réflexion, ce sera avec plaisir et je pourrai même aider, mais ce ne sera plus un travail de recherche. Arnaud, en cela, on touche ici à toute la limite de la discussion sur l'islam en Occident, telle qu'elle tend à devenir la norme. Tout propos sur l'islam semble analysé à travers une grille de lecture idéologique. Cela étant, et je vais être complètement transparent. J'ai le même problème quand j'ai affaire à un
occidental. Oui. Tu m'entends ? C'est pour la conclusion ?
Oui, c'est exactement ça. Je suis en train de lire la conclusion.
J'ai le même problème
quand j'ai affaire à un public occidental qui lit mes travaux et me trouve complaisant et insuffisamment critique. Ces propos peuvent aussi venir de confrères sympathiques par ailleurs, mais qui sortent de leur rôle de chercheur, devant être attachés à un protocole, une méthode, une démarche. On peut donc parler d'islam à l'université, en tout cas au sein d'une université comme la mienne, car justement, on ne cherche pas à faire taire celui qui adopte une démarche scientifique et le combat parfois d'une façon que nos démocraties libérales réprouveraient, l'islam politique et la politisation de la question religieuse. Je conclurai en rappelant que le rôle de l'enseignant-chercheur ne se résume pas au rôle de scientifique. Il est aussi un enseignant et doit donc transmettre la méthode de recherche, la culture de l'épistémologie et de la distance critique aux étudiants. Lorsque j'apprends que des étudiants affichent les noms d'universitaires, et Vincent, tu es bien placé pour en parler, qu'ils manifestent idéologiquement contre ce colloque, je me dis que quelque part, les enseignants-chercheurs ont peut-être failli à leur mission weberienne et qu'il appartient plus que jamais aux directions, aux présidences d'université, à l'encadrement académique, de rappeler constamment le corps professoral à son devoir sacré. Nous devons transmettre cet amour de la recherche, cette méthode de recherche, et transmettre ce qui est de tendre vers une certaine neutralité axiologique. C'est pour moi le meilleur moyen de pouvoir parler d'islam à l'université sans être constamment ennuyé. Je vous remercie beaucoup.
Bon, merci Arnaud pour ce témoignage qui est très troublant, effectivement, qui incite à se dire finalement est-ce que l'avenir de la liberté d'enseignement n'est pas dans le golf. J'ai du mal à adhérer totalement à ce postulat, mais bon, pourquoi pas. Bernard Rougier.
Merci beaucoup pour cette invitation. Mon intervention sera relativement courte. Puisqu'on est sur le mode du témoignage, je voudrais vous donner le mien. Quand je faisais ma thèse sur les groupes djihadistes dans les camps palestiniens du Liban, c'était au milieu des années 90, j'ai terminé à peu près en 2002, et j'ai eu évidemment un cas de conscience au moment de publier cette thèse, parce que je me suis dit, je vais montrer que le camp dans lequel je travaillais au sud du Liban avait été fréquenté par de futurs dirigeants de l'État islamique, mais ça je ne le savais pas encore, qu'il y avait évidemment des partisans d'Oussama Ben Laden, qu'il y avait un certain nombre de personnalités importantes du réseau djihadiste mondial, et que le camp était un peu devenu l'un des lieux de passage, et que d'une certaine façon, l'histoire palestinienne, la verticalité palestinienne était en train de disparaître au profit d'une géographie djihadiste transnationale. C'était à peu près ma thèse. Mais la situation de ces réfugiés était extrêmement difficile, et je me suis dit ils sont toujours interdits d'emploi, discriminés légalement, victimes de l'absence de solution du processus de paix, faisant l'objet de règlements de compte entre le régime syrien et Yasser Arafat. Donc c'était un contexte extrêmement compliqué. Est-ce que dire qu'il y a en plus des djihadistes à l'intérieur de ces véritables villes palestiniennes, qui sont des camps mais en réalité des villes, est-ce que je n'allais pas rajouter du mal au mal? Et est-ce qu'il fallait dire ce que je disais, même si je le disais avec le maximum de nuances et après un travail de terrain de plus de 5 années? Et j'en ai parlé avec un ami palestinien qui vivait dans le camp et qui avait été lui-même un militant du Fatah de Yasser Arafat, qui avait vécu toute la guerre civile. C'était le radio du Fatah. Et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, nous vivons sous la violence de ces groupes. Ils nous empêchent de lire Mahmoud Darwish, un des plus grands poètes palestiniens. Ils nous imposent de séparer les femmes et les garçons, ce qui ne s'était jamais vu dans les écoles de l'UNRWA, l'agence chargée des réfugiés pour les Nations Unies. Si toi, tu n'écris pas ce que nous vivons, personne ne l'écrira. Si moi je l'écris, je serai mort demain. Et donc, d'une certaine façon, il a levé en quelque sorte mes scrupules, ce qui ne m'a pas empêché, évidemment, lorsque le livre a été traduit en anglais, d'être accusé d'être... on retrouve très facilement l'article « New Orientalism ». Donc j'étais orientaliste. Et pour sortir du témoignage personnel, le mot « orientaliste » et Édouard Saïd, auquel Florence Bergeau-Blecker a fait allusion, a joué un rôle considérable. Et vous savez, le philosophe anthropologue Ernest Gellner disait qu'il y avait trois principales idées-forces dans le monde intellectuel à la fin du XXe siècle. Le fondamentalisme religieux, le postmodernisme et ce qu'il reste, disait-il, de rationalisme des Lumières. Et disait-il encore, ce rationalisme des Lumières va devenir la victime de l'alliance entre le postmodernisme d'un côté et l'islamisme, pour le dire vite, de l'autre. Le livre d'Edouard Saïd, que vous connaissez évidemment, qui a été publié en 1978, a eu un rôle considérable, et je crois que les grandes dynamiques intellectuelles, nous le savons maintenant, américaines, sont évidemment arrivées en France. Mais ça fait longtemps. La thèse d'Edouard Saïd, c'est de dire « pouvoir et savoir sont intimement liés » et donc tout le savoir qui a été construit sur l'Orient, Maghreb, Machrek, etc., est un savoir pollué par le dessein colonial qu'il a encadré, en quelque sorte. Et il s'appuie, comme nous le savons, sur Michel Foucault. Or, le problème, c'est que Michel Foucault n'a jamais dit que le mélange de savoir et de pouvoir allait déconsidérer le savoir. Au contraire, d'une certaine manière, il a montré la naissance des grandes sciences comme l'économie politique, la démographie, comme étant favorisées par l'État moderne, donc par des formes de pouvoir. Et d'une certaine manière, cette alliance montre la validité du savoir. Un autre universitaire spécialiste du Moyen-Orient, Fred Halliday, disait « si vous voulez braquer une banque, vous allez vous intéresser au plan de la banque, à la personnalité des employés, essayer d'identifier qui vous pouvez corrompre. Bref, vous allez fabriquer un savoir, parce que ce savoir est articulé à un pouvoir, le fait de prendre l'argent dans la banque. » Donc ce lien, il est connu, j'allais dire, il est à l'origine du savoir, et il ne disqualifie pas nécessairement, évidemment, le savoir en question. Mais à partir de là, Edouard Saïd a considéré que tout ce qui avait été publié de l'Antiquité jusqu'au dernier universitaire européen était en quelque sorte impur parce que contaminé par un dessein colonial, néocolonial. Même ceux qui étaient des grandes figures de l'anticolonialisme, comme Maxime Rodinson et d'autres, en sont cités et disqualifiés en quelque sorte par leur appartenance. Mais en réalité, ils sont disqualifiés par leur appartenance universitaire, par leur appartenance à une tradition, et même s'ils veulent lutter contre cette tradition, ils ne le peuvent pas. La conclusion d'Edouard Saïd, en réalité, c'est qu'on ne peut pas travailler en dehors de son aire culturelle et qu'on est disqualifié par l'origine. Et c'est ma thèse, à mon sens, Edouard Saïd a provoqué lui-même une forme d'orientalisme. Si on prend le mot au sens d'un savoir idéologique, médiocre, de faible qualité, politisé, Edouard Saïd a eu une telle influence sur le champ universitaire américain qu'il a arrêté, il a freiné assez brutalement la production universitaire américaine, qui était très remarquable sur le Moyen-Orient. Des livres de Mitchell sur les frères musulmans, les grandes biographies de Nikki Keddy sur Jamal Adil al-Afrani, etc., etc. Il y avait une très grande production. Et elle s'est arrêtée très largement et elle a été remplacée par des ouvrages sur la politique américaine, sur la politique britannique, c'est-à-dire sur ceux qui travaillaient sur le monde arabe, mais non plus sur les objets de la région. Et vous avez eu donc la naissance d'une sociologie de la dénonciation et qui n'est plus une sociologie de la construction des savoirs. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'était de ne pas prendre les Arabes pour des objets d'études. Mais c'est la vocation du travail scientifique que de prendre l'autre comme un objet. Si vous étudiez le Front National, vous allez prendre des militants pour des objets. Si j'étudie le groupe des Colops, je vais les prendre également comme des objets d'études. C'est dans le sens, en quelque sorte, de la démarche scientifique. Et donc, c'est ce sens de la démarche scientifique qui s'est trouvé disqualifié. Que s'est-il passé ? Eh bien, la production après le terrorisme, après le 11 septembre, ce sont les journalistes américains, souvent très bons, qui ont travaillé sur ces questions. Lawrence Wright a écrit le Looming Tower sur Al-Qaïda, Steve Cole a travaillé sur Al-Qaïda, ce sont des journalistes de terrain, des journalistes d'investigation de très bonne qualité, mais ce ne sont pas des universitaires. Aucun universitaire américain n'a proposé une lecture, un travail sur Al-Qaïda, rien. Et on n'a pas grand-chose non plus sur l'État islamique. Et donc on a eu, en quelque sorte, une disqualification universitaire, des travaux idéologiques sur la politique américaine, britannique, etc., à quel point elle était enfoncée dans des préjugés, etc., des travaux de qualité, mais par des journalistes, et les quelques universitaires qui ont été sollicités par le département d'État au fil des années, ce sont les universitaires qui sont dans les think tanks, et eux produisent en effet un savoir idéologique. Et eux produisent un savoir idéologique qu'on peut qualifier d'orientalisme. Au fond, la thèse, c'est de dire que c'est Edouard Saïd lui-même qui a provoqué, en ce sens-là, une forme d'orientalisme. Quand vous avez eu les attentats en septembre aux États-Unis, il y a eu des tentatives d'explication sur la radicalisation. Et le mot qui est passé ensuite dans les administrations publiques en France, en Europe, au sein de l'Union européenne, sont en fait le décalque de grilles de lecture qui ont été construites, bâties aux États-Unis. Les Américains, c'est un psychologue qui a commencé ça, Barham, a distingué entre la radicalisation non-violente et la radicalisation violente, en considérant que la radicalisation non-violente n'avait aucun effet sur la radicalisation violente. C'est-à-dire qu'à partir de certaines études, on a montré que des terroristes n'avaient pas été socialisés par des milieux qui prenaient la violence contre la société américaine, et qu'à l'inverse, des milieux qui prônent la violence contre la société américaine ne sont pas passés au terrorisme. Donc tout à coup, il y a eu une séparation entre radicalisation violente et radicalisation non-violente. L'islam, l'islamisme, etc., n'intervient pas du tout. L'islam est ici une absence très présente dans tous ces travaux. En réalité, ils ont tous le 11 septembre en tête, mais personne ne veut rentrer pour ne pas stigmatiser. Et vous avez, sur l'influence de ce travail, des modèles aussi psychologiques qui ont été ensuite, qui sont passés en Europe et dans les administrations françaises, sur la radicalisation par palier, où tous les exemples sont pris de toutes les formes de terrorisme. Il n'y a pas de spécificité islamiste, puisqu'il ne faut pas stigmatiser. Donc on a ici ce que j'appelle encore une fois une absence très présente, qui est la production de ces travaux qui cherchent à mettre sur le même plan toutes les formes de violence, ethno-nationalisme, extrême-gauche, islamisme, etc., pour, en quelque sorte, ne pas avoir à rentrer dans une spécificité parce que, au nom du refus de l'exceptionnalisme, entre guillemets, islamique. Les travaux sont passés dans la Commission européenne à partir d'avril 2006. La Commission européenne a demandé à des universitaires de produire un modèle d'explication. Les universitaires européens ont donné un rapport en 2008 qui dit, alors je ne vais pas vous ennuyer avec tout le rapport, les ressemblances remarquables entre islamistes, djihadistes, extrême-gauche, ethno-nationalisme en Europe depuis les années 1960. Donc l'objet, en quelque sorte, l'objet islamisme, je ne parle même pas de l'objet islam, disparaît complètement dans cette analyse. Je rappellerai sur l'objet islam une remarque extrêmement intéressante, ce qui a été faite par un intellectuel syrien, Yassine Al-Hajj Saleh, qui citait Al-Kardawi, la grande référence des frères musulmans. Al-Kardawi disait « L'islam, pour moi, c'est à la fois une religion, une foi, une justice, un État, un gouvernement, une jurisprudence, une morale, une connaissance. » Et Yassine Al-Hajj Saleh se dit « Mais si un objet est défini avec autant de... Si cette liste est interminable, il n'y a plus d'objet, dit-il, l'islam disparaît. Si l'islam, c'est à peu près tout ce qui peut être annexé par un idéologue, dans ce cas-là, il n'y a plus d'islam. » Et dit-il, ça devient extrêmement dangereux si on ne s'entend pas sur une définition. Cette réflexion me semble intéressante. Donc on a eu des travaux qui sont allés systématiquement dans ce sens. Je vais très vite et je ne vais pas vous donner d'autres exemples. Quand il y a une autre, sous l'effet d'Edouard Saïd, il y a eu une autre tendance, où cette fois-ci, l'islam était une présence. Mais j'allais dire, je vais vous m'expliquer là-dessus, une présence absente. Je vais citer deux travaux très vite et après j'aurai terminé pour respecter le temps. Vous avez eu un travail qui a été financé par la Commission européenne, une ERC, comme on dit, Euro Public Islam, Islam in the Making of a European Public Sphere. Donc, c'est l'idée que les populations musulmanes vont contribuer à la création d'un espace public expérimental. C'est une science sociale qui se veut militante, qui veut donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, sur le mode du théâtre brésilien fondé par Augusto Boal. Et donc, il faut faire émerger cet espace public alternatif et définir de nouvelles normes de civilité, nous disent les auteurs. Par exemple, sur l'affaire du Jyllands-Posten, vous vous souvenez, les fameuses caricatures danoises de 2005, eh bien, le journal aurait dû être sanctionné, de leur point de vue, puisque se sont jouées deux conceptions du sacré. Je cite le rapport. Il se trouve que dans mon terrain, j'ai quand même fait du terrain, je connais les gens qui ont fabriqué ce scandale. Deux militants salafistes, l'un d'origine syrienne, l'autre d'origine, l'un d'origine libanaise, l'autre d'origine égyptienne, Abou Laban et Raed Al-Hayahel, qui m'ont dit, on a mis des mois avant de construire ce, ce scandale. Au départ, les opinions publiques, les ambassades, l'université d'Al-Azhar, l'université d'Islamabad n'a pas réagi. Ces deux acteurs sont des militants salafistes qui ont construit ce scandale pour se mettre en scène. Ce type de rapport immunise, décontextualise totalement ce dont il parle. Ça devient l'islam et non plus des militants islamistes parmi d'autres. Et la parole de ces militants est prise, si j'ose dire, à la place des musulmans. Il y a énormément d'autres exemples de ce type. Je vais m'arrêter ici pour vous montrer, en quelque sorte, la manière dont les travaux d'Edouard Saïd et une certaine mode américaine a totalement imprégné les institutions européennes et françaises par cette.
Merci. Merci beaucoup, Bernard Rougier. On passe la parole à Thibaut Tellier.
Merci Vincent. Alors, effectivement, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'islam. Je travaille en histoire urbaine et plus particulièrement sur l'histoire des banlieues. Alors, il se fait que quand je suis arrivé comme professeur à Rennes, à Sciences Po en 2015, j'étais relativement tranquille dans mes cours, puisqu'il y avait une forme de tradition locale qui faisait qu'on était à peu près occupé toutes les années par des manifestations, etc. Donc, je n'allais jamais jusqu'au bout de mon programme d'histoire et je m'arrêtais dans les années 70. Donc, globalement, la question de l'islam dans les banlieues, j'y échappais de manière relativement sereine. Bon. Et puis, un virus en a chassé un autre et de ce point de vue-là, j'ai pu aller enfin jusqu'au bout de mon programme et donc j'ai dû aborder la question, effectivement, post-1981 et notamment, évidemment, la question de l'islam dans les banlieues. Bon. Et de ce point de vue-là, j'ai quand même senti chez les étudiants une sorte, chez certains étudiants pour être tout à fait juste, un certain malaise. Comment allez-vous aborder la question? Et très vite, au fond, il y a une forme d'amalgame qui s'est constituée, immigrés, banlieusards et islam. Un truc assez compliqué finalement à appréhender. Et par ailleurs, ayant soutenu une habilitation, ici même d'ailleurs, sur les origines de la politique de la ville, il me fallait aussi dépasser le stade des années 70 et appréhender cette question, notamment en relation avec les organismes gouvernementaux qui travaillent sur ces questions. Alors, ça m'a amené effectivement à un certain nombre de réflexions et je voudrais ici simplement, vu que le temps est très court, vous donner deux éléments de réflexion. D'abord, effectivement, sur comment cette question de l'islam dans les banlieues a été totalement réinterprétée au prisme d'une histoire sociale que je considère, pour ma part, être totalement travestie. Je m'explique. Globalement, un certain nombre d'universitaires, de chercheurs se sont appuyés sur, au fond, la posture ouvrière. Je fais simple pour aller à l'essentiel. Au fond, les immigrés sont devenus les nouvelles victimes de l'urbanisation. Et de ce point de vue-là, on explique que globalement, à partir des années 60, eh bien, la construction des grands ensembles sont devenues des sortes d'entreprises néocolonialistes menées par les pouvoirs publics, notamment la Caisse des dépôts, et on explique qu'au fond, il y a une forme d'exportation du savoir administratif colonial extra-métropolitain à la métropole. Bien. Et donc, à partir de là, effectivement, on renverse totalement les choses, c'est-à-dire que les années 60 ne sont pas uniquement des moments d'incubation de la modernisation sociale, ce sont aussi des moments de fabrication de nouvelles inégalités, et certains allant jusqu'à dire que ce sont des nouvelles formes d'aliénation. Bien. Alors, évidemment, ça change totalement les choses. Et de ce point de vue-là, et il y a des rapprochements, de mon point de vue, relativement malheureux. Par exemple, je prends l'exemple d'un documentaire qui est sorti dans les années 2000 sur la Seine-Saint-Denis, où on explique qu'au fond, la Seine-Saint-Denis a une tradition d'accueil des opprimés et qu'au fond, ils ont toujours été perçu par les pouvoirs publics comme un lieu d'expulsion, d'abord des ouvriers et puis des immigrés. Alors, il y a toute une espèce de falsification historique, notamment autour du terme de Cayenne, qu'on trouve dans la bouche de certains ouvriers au XIXe siècle pour désigner des lieux, effectivement, d'exercice du travail extrêmement pénible. Et on reprend cette expression en disant, au fond, eh bien, la Seine-Saint-Denis est un nouveau Cayenne pour un certain nombre d'immigrés. Bien. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a une forme de déconstruction de l'histoire sociale qui permet, effectivement, de réinterpréter au prisme d'enjeux idéologiques actuels toute une série de remarques qui avaient été faites dans les années 1960. Donc, on s'appuie de manière un peu scabreuse, notamment sur la sociologie urbaine marxiste, Henri Lefebvre notamment, et on reprend effectivement, de ce point de vue-là, un certain nombre de remarques qui avaient pu être faites sur l'aliénation représentée par ces grands ensembles. Donc, premier point, effectivement, c'est comment on déconstruit l'histoire sociale. Et si je pouvais trouver une formule un peu lapidaire et forcément relativement maladroite, eh bien j'ai envie de dire que quelque part on a fait un raccourci totalement mensonger où on est passé de la classe sociale à la race. C'est-à-dire qu'au fond on a totalement changé les paramètres entre guillemets de la domination pour arriver effectivement à cette interprétation des territoires de certaines banlieues. Deuxième point sur lequel, effectivement, je m'interroge hein, par mes travaux actuels, c'est effectivement comment aujourd'hui peut-on aborder la question de l'islam dans les banlieues de manière scientifique et non polémique. Alors, je le dis d'autant plus en présence de Bernard Rouget, je pense qu'il pourrait témoigner largement là-dessus, mais il est évident qu'un certain nombre de travaux, et je pense notamment donc à ceux de Bernard Rouget, je pense aussi à ceux à l'ouvrage collectif de Georges Bensoussan, Territoire perdu de la République, qui au mieux, chez certains collègues, a fait l'objet d'un accueil critique, au pire, totalement insultant. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, comment peut-on appréhender cette question de l'islam sans tomber effectivement dans un discours victimaire. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une forme d'agrégation entre cette posture victimaire des immigrés et puis, d'autre part, la volonté de ne pas voir certains éléments. Et à cet égard, ça pose évidemment la question de l'intégration de la question de l'islam dans les politiques urbaines. Alors évidemment, dans un IEP, Vincent, je pense, pourra le confirmer, c'est évidemment des sujets extrêmement sensibles, mais il faut quand même savoir aussi qu'on s'adresse théoriquement aux futurs décideurs de l'action publique. Bon. Pour ça, je pense qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est qu'on est aussi confronté à une lecture extrêmement partielle et partiale en termes d'interprétation de l'action publique. Mais ça veut dire qu'il y a aussi derrière en ricochet, on forme des experts, on forme des techniciens, notamment de la politique de la ville, au prisme d'une certaine interprétation de l'histoire urbaine contemporaine. Bon, moi, je suis quand même surpris de discuter, par exemple, avec des chefs de certains chefs de projet de la politique de la ville qui vous disent « Ah ben, de toute façon, la politique de la ville, elle essaye notamment de lutter pour ne pas répercuter ce qu'Haussmann avait fait, c'est-à-dire d'avoir chassé volontairement tous les ouvriers de Paris pour les envoyer en banlieue. » Vous vous dites, quand même, à un moment, il faut en refaire un peu d'histoire et il faut avoir un peu de distance critique. Et donc, à cet égard, ça suppose effectivement de revisiter non pas simplement la question de l'islam dans les banlieues, mais ça suppose aussi de revisiter les réponses qui ont été apportées par l'action publique en matière de politiques urbaines. Et donc, évidemment, là, vous commencez à poser un certain nombre de problèmes et d'interpeller un certain nombre de responsables. Parce que vous interpellez effectivement l'État sur le sens donné aux politiques de la ville depuis les années 1980. Il suffit de lire certains textes pour vous apercevoir qu'effectivement, il y a une forme d'embarras de l'action publique. C'est-à-dire qu'on voit bien comment l'action publique hésite. Alors c'est assez fragmenté, mais hésite finalement entre une approche relativement communautaire qui effectivement s'appuie notamment sur certaines associations qui font du prosélytisme religieux, mais pour conduire de l'action sociale. Et puis à d'autres moments, vous avez des formes d'emphase, de grands discours républicains, l'égalité républicaine, etc. Bon. Donc, évidemment, l'analyse critique permet effectivement de mettre en avant les incompréhensions, mais aussi quelque part le côté inadapté des réponses de l'action publique. Deuxièmement, ça suppose aussi, quand vous abordez dans des enseignements universitaires cette question de l'islam au niveau des territoires, de vous interroger sur l'évolution des mobilisations sociales. Bon, ce matin, Pascal Perrineau parlait effectivement des attaques contre la démocratie représentative. Là aussi, il y aurait toute une série de recherches à faire sur quelles sont véritablement les intentions de certains regroupements dits de démocratie participative ou d'empowerment, etc., qui ont des desseins politiques légèrement en au-delà de simplement faire le relais des habitants auprès des pouvoirs publics. Et puis enfin, dernier élément, ça interroge aussi la question effectivement de comment on fait vivre le modèle républicain au travers de certains territoires urbains. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, il ne faut pas effectivement avoir peur d'interroger cette notion de territoire perdu de la République, des territoires conquis de l'islamisme. Mais le seul problème, c'est que il y a un refus relativement unanime pour travailler sur ces questions. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du financement, etc. Mais quand vous sollicitez certaines organisations nationales, vous avez un refus poli parce que c'est des questions effectivement qui peuvent fâcher. Et sur lesquels on préfère finalement détourner le regard. Donc, effectivement,
pour terminer, voilà.
Voilà, je conclue quand même pour vous dire que moi j'ai quand même une certaine inquiétude sur la manière dont on peut transmettre ces questions. Je le vois notamment au niveau de l'enseignement secondaire. Il faut quand même aller voir sur certains sites professionnels de voir comment on appréhende Cette question, effectivement, uniquement sous l'angle victimaire. Et je terminerai juste par une formule qui est celle que je donne aux étudiants de première année. Je leur dis toujours, première chose que je leur dis, c'est vous risquez d'être déçus. L'histoire, elle est ni blanche ni noire, elle est surtout une nuance de gris, plutôt foncé, plutôt clair en fonction des périodes, mais vous devez apprendre la nuance. Et donc il faut que cette nuance fasse aussi partie des enseignements, mais aussi des recherches qui viennent nourrir ces enseignements.
Merci. Merci Thibault. Alors, on va devoir bientôt terminer, mais ça me coûterait, disons, de partir brutalement comme ça. Je vais poser une question à chaque intervenant et je vous demanderai une réponse très brève, pratiquement oui-non. Je ne sais pas si c'est envisageable. Alors, je laisse de côté du coup mes questions initiales sur l'enseignement de l'islam, etc. Vous avez tous un peu bouté en touche, mais ce n'est pas grave, c'était prévu par certains côtés. Alors, Florence Berger-Blaclair, d'abord, sur la question du financement quand même, parce qu'il y a quelque chose qui est très troublant, effectivement, c'est l'idée que l'Union européenne finance, par certains côtés, l'islamisme. Donc, ma question va être, oui. Je pose ma série de questions, et puis comme ça, ça permettra de réfléchir en même temps, mais est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'on a affaire... Oui, enfin, il faut s'en inquiéter, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est, est-ce que c'est quelque chose qui est ponctuel, limité, qui est une sorte de bévue de la part de l'Union européenne? On n'a pas fait attention, bon, on a financé des djihadistes, mais on ne le fera plus. Ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui n'est pas vraiment réalisé, et donc du coup ça peut s'aggraver avec le temps. Bon. Une question pour Arnaud Lacheret, je ne sais pas s'il est toujours en ligne ou s'il est parti faire son footing. Arnaud, en fait, effectivement, on est presque, on a envie de se dire, c'est presque un conte de fées ce que tu nous racontes, c'est presque trop beau pour être vrai, cette espèce de liberté absolument. Alors, est-ce que c'est une liberté sincère, ou est-ce que c'est finalement, par certains côtés, alors soit une caution, je pose des questions naïves, hein, peut-être un peu brutales, pardonne-moi, mais est-ce que c'est une caution que tu es utilisé comme caution, ou bien c'est aussi lié au fait que tu es un peu extérieur, en quelque sorte, et donc finalement, bon, on te laisse faire un peu comme une espèce d'animal exotique qui viendrait faire son petit discours, et puis bon, ben voilà, c'est pas très important, parce que de toute façon, ton discours ne peut pas avoir d'effet. Troisième question à Bernard Rougier sur... vous avez attribué effectivement à Edouard Saïd, peut-être, est-ce que ce n'est pas un pouvoir trop important ? C'est-à-dire cette idée qu'au fond, c'est Edouard Saïd qui aurait figé les débats et les réflexions sur l'islam et l'islamisme. Et je rebondis sur la remarque que faisait ce matin Pascal Perrineau, qui disait au fond, il était frappé par le fait que les politologues ont déserté les questions essentielles, les questions sur le vote, la démocratie, etc. Est-ce que ce n'est pas un problème plus général de l'université, des universitaires, et ça c'est une question que je me pose moi aussi, une tendance des universitaires aujourd'hui finalement à se polariser en tendance, je dis bien, il y a des cas individuels bien sûr, heureusement, mais en tendance à se polariser sur des micro-objets, des sujets qui intéressent trois personnes en France, et à délaisser les grandes questions essentielles qui concernent aujourd'hui notre société, son avenir, etc. Et puis dernière question pour Thibault Hôtellier sur la politique de la ville. Alors c'est effectivement très intéressant parce qu'on est quelque part au cœur du sujet sur les territoires conquis de l'islamisme. Ma question va être brutale et donc inadaptée pour un spécialiste, mais globalement, finalement, cette politique de la ville, est-ce qu'un spécialiste comme toi peut dire, voilà, son bilan final, il est positif, ou est-ce qu'elle a au contraire contribué à aggraver les problèmes? Ou bien, si elle n'avait pas été là, en quelque sorte, les problèmes seraient beaucoup plus importants aujourd'hui. Voilà. Quel est le sentiment, c'est peut-être un peu excessif de poser la question comme ça, pardonne-moi, mais si tu trouves qu'elle est trop naïve, on peut voter en touche. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre dans l'ordre, mais brièvement, parce qu'il est déjà très...
Alors, est-ce que les institutions européennes sont conscientes du financement de l'islamisme? En tout cas, elles devraient l'être, parce que les lanceurs d'alerte sont assez nombreux aujourd'hui, donc elles sont informées. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'on entend une petite musique qui est... les frères musulmans européens, pourquoi pas. Et ça, c'est très préoccupant.
Arnaud, tu es toujours là?
Alors, je comprends ta question et tu as parfaitement raison de la poser. Il y a quelques années, je me serais dit, ouais, effectivement, ils me prennent un peu pour quelqu'un, pour un prétexte, quoi, pour une excuse. En fait, il faut voir avec quelle violence, et je pèse mes mots, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Bahreïn, je parle de ces trois pays, parce que c'est les trois pays principaux financeurs de mon université, tapent sur l'islam politique et les frères musulmans. C'est d'une violence et d'un... Voilà, c'est quelque chose que nous ne pourrions pas accepter dans nos sociétés occidentales. Quelqu'un comme Tariq Ramadan ne pourrait pas parler plus de 5 minutes, il n'a pas le droit de venir au Bahreïn. Al Jazeera n'est pas diffusé au Bahreïn et en Arabie saoudite, c'est coupé, ça n'est toujours pas réouvert. Voilà, il faut vraiment avoir en tête que ces trois pays du Golfe, et on peut ajouter l'Égypte aussi, combattent de façon extrêmement, extrêmement violente, oui, on peut dire ça, et même si mon propos est traduit et arrive dans les oreilles des dirigeants de ces pays, je pense que je n'aurai pas de problème, les frères musulmans. Et ça change tout. À partir du moment où tout l'antrisme qui a été décrit n'a pas vraiment lieu dans mon université, on accepte qu'un occidental prenne l'islam comme un objet de recherche, simple, à partir du moment où je ne prends pas de position politique, ça peut être accepté. Il faut faire attention, bien entendu. Tout le monde n'accueille pas ce que je dis les bras ouverts, mais toutes les conférences que je fais se passent normalement bien et se passent en face d'un public arabe du Golfe qui partage ou ne partage pas mes conclusions, mais les discute de manière scientifique, raisonnée et surtout dépassionnée, et c'est très intéressant.
Merci Arnaud.
Très vite, je pense que c'est les deux. C'est la rencontre de certaines idées avec une situation. La situation, c'est celle de la mondialisation, c'est celle de l'augmentation de l'éducation de masse sur la planète et de la faiblesse de l'État-nation et des formes universitaires et des formes épistémologiques qui lui étaient associées. Je pense que l'universalisme et le travail intellectuel de constitution d'un objet avec une éthique, de chercheurs est lié aussi à la construction de l'État-nation et de son modèle de citoyen. Donc, ce sont ces formes-là qui sont en crise et le savoir universitaire classique qui l'accompagnait.
Merci. Thibault, pour terminer.
Oui, alors, je ne vais évidemment pas répondre à la question parce que évaluer la politique de la ville, en plus, j'ai déjà plein d'adversaires, je ne vais pas m'en rajouter en plus. Donc, simplement, ce que j'aurais à dire, c'est que dans politique de la ville, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, il y a ville, mais il y a aussi politique. Donc, ça veut dire très clairement que ce n'est pas une politique neutre, qui n'agit pas sur des territoires qui sont neutres. Donc, il faut aussi qu'il y ait un discours politique très clair, très républicain, qui sous-tende l'action au niveau local.
Tu veux dire que ce n'est pas le cas ? Bien, merci. Merci, désolé, on a un petit peu débordé sur le temps. J'espère qu'on aura une petite pause quand même. Bon.
Merci beaucoup, oui. Donc, on a une pause bien méritée. Donc, on prend 10 minutes de pause pour avoir un quart d'heure de pause. Donc, non, 10 minutes. Donc, à 25, tout le monde ici.
C'est incroyable ce qu'il raconte.